Radio Stable.
Morning Edition from NPR News.
Un instinto de la house.
Radio Rosana Piperino.
Que se reproduce y entra en la radio.
France Inter, le 18-20.
Nous sommes à Kiev ce soir dans l'escale reportage à Kiev dans l'église orthodoxe ukrainienne qui vient de prendre son indépendance. Enfin, Constantinople la lui a donnée, mais face à Moscou, tout ça est très très compliqué. Et c'est Claude Brouillot qui va nous l'expliquer sous les radars et Amélie Perrier avec un propriétaire de maison close qui meurt aux États-Unis, mais il était candidat aux élections de novembre. Il pourrait bien être élu, figurez-vous. 18h50, le cinéma en VO avec Eva Bétan, un documentaire sur le procès de Mandela. 256 heures d'enregistrement audio. Ça nous parle, nous, à la radio, et ça donne au bout du compte un film étonnant. 18h55, Le Monde à l'envers de Jean-Marc Four. Que ce soit clair, on ne se séparera pas de l'Arabie Saoudite, surtout pas les Américains. Il y a trop d'enjeux. En revanche, qui sait si l'Arabie Saoudite ne va pas décider de se séparer de son prince. Avant cela, direction le Royaume-Uni, son Brexit et ses hésitations. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Esse. Un jour dans le monde.
L'échec donc est annoncé, ça c'est pas vraiment une surprise, à Bruxelles ce soir et demain, entre Theresa May et les 27, le sommet de la dernière chance pour plier un bon Brexit, eh bien ce sera le suivant, puisque personne ne claque la porte par ailleurs, mais c'est pas encore pour cette fois. On en parle beaucoup depuis ce matin sur France Inter notamment, on est très focalisé à juste titre d'ailleurs sur la frontière irlandaise. Du coup nous on va se poser la question un peu dans l'autre sens en fait, peut-on imaginer un Brexit heureux et si c'était une chance au fond cette affaire-là? Bonsoir Marc.
Bonsoir.
Vous avez notamment été correspondant du Point, du Soir et puis du Monde, bien sûr, pendant très très longtemps. Vous vivez à Londres depuis 3 décennies. Vous avez fini par demander la nationalité britannique après le Brexit. Peut-être qu'on aura le temps que vous nous expliquiez, un peu par conviction, un peu par provocation, par amour aussi pour ce pays, ça on l'a bien compris. On aura au téléphone dans un instant un ancien du UKIP d'ailleurs, qui nous dira où il en est aujourd'hui. Marc Roche, vous avez écrit « Le Brexit va réussir », c'est chez Albin Michel. Vous êtes un converti au fond. Alors expliquez-nous d'abord les atermoiements, les injonctions même qu'on entend parfois en direction de Theresa May. Est-ce que ça ébranle vos convictions, Marc Roche? Est-ce que, au contraire, tout ça de toute façon finira par un deal, quoi qu'il en soit, selon vous?
Écoutez, moi je suis un Remainer, c'est-à-dire quelqu'un qui était partisan du maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Je suis belge, maintenant britannique également, je suis né à Bruxelles, je suis né avec les institutions européenne et je pensais que le résultat était garanti et que le Royaume-Uni allait rester dans l'Union européenne. Je me suis trompé et petit à petit, de Remainer convaincu et de cœur, je suis devenu non pas un partisan du Brexit, mais j'accepte le Brexit de raison parce que j'estime qu'en dehors de l'Union européenne, le Royaume-Uni a de beaux atouts à jouer.
Ça veut dire que s'il n'y a pas de deal, selon vous, de toute façon, le Royaume-Uni s'en sortira quand même et s'en sortira bien, ou pour que ça se passe bien quand même, il faut qu'un deal soit signé. Ce ne sera pas aujourd'hui, on l'a bien compris, mais au prochain sommet, celui du mois de novembre.
À court terme, le Royaume-Uni et son économie vont souffrir qu'il y ait un deal. Et alors ils souffriront moins économiquement ou qu'il n'y ait pas de deal et la période difficile sera plus longue. Mais à long terme, le Royaume-Uni est fort de ses atouts qui sont la City, bien sûr, et ses paradis fiscaux, l'acceptation des inégalités, le règlement de son problème migratoire, l'affaiblissement du populisme, la déréglementation du marché du travail et l'absence de patriotisme économique qui continuera d'attirer les investisseurs étrangers, surtout ceux venus de pays émergents, à commencer par la Chine.
Alors, on y viendra dans un instant, à ce que ça deviendra selon vous. Un mot encore sur ce qui se passe quand même en ce moment à Bruxelles notamment. À votre avis, qui négocie le mieux là-dedans? Est-ce que c'est l'Union qui parvient à imposer son rythme? Est-ce que c'est l'Union le maître des horloges, si je puis dire? Est-ce que vous sentez qu'elle est dépassée? Est-ce qu'elle joue bien son rôle, Theresa May? Comment vous le voyez, vous?
Alors, l'Union européenne a remarquablement bien négocié pour une raison simple. C'est que Bruxelles avait toutes les cartes en main. Il n'y avait qu'un seul négociateur, Michel Barnier, ce qui évitait la division. Il y a eu l'échec de la tentative britannique de diviser pour régner. Et un gouvernement britannique totalement impréparé au Brexit, un gouvernement faible, sans majorité, avec un Premier ministre contesté à la fois sur sa droite par les Brexiteurs, partisans du Brexit, et sur sa gauche, si l'on peut dire, par les pro-européens. Donc les Britanniques ne pouvaient rien faire face aux atouts dont disposait Michel Barnier, le négociateur européen, d'autant plus que la haute fonction publique britannique n'était pas à la hauteur de l'enjeu, puisqu'elle avait été court-circuitée par Theresa May, qui a tout concentré au 10 Downing Street, et aussi par la cure d'austérité qui l'a affaiblie et qui a fait qu'elle n'était pas la Rolls-Royce de la diplomatie qu'elle avait été dans le passé. Donc c'est en gros 1-0 pour l'Union européenne, mais bien sûr il y a la vraie négociation et notamment les intérêts commerciaux qui ne manqueront pas de diviser, pense-t-on à Londres, les Européens.
Marc Roche, restez avec nous évidemment. Bonsoir David Young.
Oui, bonsoir.
Et merci d'être avec nous. Vous avez été candidat pour le UKIP. J'ai presque envie de dire feu le UKIP, cet ancien UKIP, le parti qui a amené jusqu'au Brexit et puis qui a disparu avec Nigel Farage immédiatement après. Moi, je suis curieuse de savoir où vous êtes, du coup, vous, aujourd'hui, dans un contexte comme celui-là. Est-ce que vous pensez, vous, que est-ce que ces négociations, au fond, vous agacent? Est-ce que vous vous dites, il faudrait qu'on parte plus vite, même si c'est un Brexit dur et qu'on en finisse avec tout ça?
Alors, je ne suis plus membre de UKIP. J'ai quitté UKIP au moment où M. Farage a soutenu le candidat Trump, qui, à mon avis, est une menace pour nous tous. Et c'était aussi stratégiquement idiote d'aligner le parti UKIP avec M. Trump, parce que UKIP attirait beaucoup de votes des anciens socialistes en Angleterre. Et moi, je voyais UKIP dès le début comme potentiel parti centriste. Avant, j'étais conservateur et après, je suis redevenu conservateur parce que c'était, après le référendum, que les conservateurs qui offraient la meilleure garantie d'un Brexit. Mais je suis très agacé par la situation. Je suis tout à fait d'accord avec M. Roche que c'était l'Union européenne qui a toutes les cartes en main, parce que, principalement parce que Mme May n'a jamais organisé des préparations sérieuses pour une sortie sans accord. Elle avait donc abandonné l'alternative à un accord dès le début, et l'Union européenne a vu ça.
Mais David Young, elle n'a rien préparé, vous avez raison, mais elle et personne d'autre d'ailleurs. Au fond, est-ce qu'il y avait bien une personne qui était préparée au Brexit au Royaume-Uni?
Non, mais en tant que Premier ministre, c'était son rôle de diriger ses efforts. Mais les conservateurs n'ont jamais fait ça. Donc, beaucoup de monde, les Brexiteurs et les Remainers qui aimeraient quand même voir une résolution de la situation, sont très en colère avec les conservateurs parce qu'ils ont gâché 2 ans de négociations. À mon avis, intentionnellement. Aujourd'hui, à mon avis, on voit le dénouement d'une politique cachée de maintien promulguée par Mme May, la soi-disant défenseuse de Brexit, mais ancienne partisane du maintien, qui se proclamait convertie au Brexit après le référendum de 2016. Mais le Premier ministre a trahi les 17 millions qui ont voté pour le Brexit.
Donc ça veut dire que vous craignez vous qu'il y ait un
million de mon pays.
Donc vous craignez vous qu'il y ait un nouveau référendum au fond qu'on oblige le Royaume-Uni à revoter pour pouvoir rester dans l'Union.
Je pense que ça c'est probable parce que la situation de Brexit est intolérable pour tout le monde actuellement, pour ceux qui voulaient quitter et ceux qui voulaient rester. Une possibilité c'est qu'on trouvera un compromis qui ne satisfera personne. L'autre possibilité, probabilité dirais-je, c'est qu'on sera confronté par une sortie sans accord qui va faire beaucoup de peur et la panique engendrée par cette possibilité va probablement mener à un scandale référendum ou même à une élection générale. Et dans ce cas-là, le Brexit sera probablement abandonné. Bruxelles a très bien compris ça dès le début. Et je pense, Mme May aussi, et à mon avis, c'est ce que Mme May souhaite. Parce qu'il faut voir que même aujourd'hui, son prédécesseur, John Major, il a fortement critiqué les partisans de Brexit dans son propre parti, disant que le résultat du référendum était une erreur énorme. Donc on voit la division des conservateurs.
David Yu.
Et je pense qu'elle a dirigé la situation vers cette conclusion pour enterrer le Brexit finalement en fin de compte. Elle serait très contente avec ce résultat.
Merci beaucoup David Yu. Marroche, ça nous intéresse ce que vient de dire David Yu. Est-ce que vous pensez-vous qu'il y a un Brexit réversible et qu'il peut y avoir un agenda caché de la part de Theresa May ? Qu'est-ce que vous en dites ?
Écoutez, il est hors de question qu'il y ait un deuxième référendum parce que non seulement les conservateurs sont divisés sur le Brexit, mais les travaillistes le sont. 40% des électeurs travaillistes aux dernières élections avaient voté en faveur du départ. Ensuite, il faut se dire que le Parlement, c'est à lui à décider. Le Royaume-Uni est une démocratie, est le berceau de la démocratie parlementaire. Et donc, un deuxième référendum, c'est mépriser le vote, le premier référendum, je dirais, et ça n'a peu probable que cela n'arrive. Ce qu'il y a, c'est que si le gouvernement May tombe, il y aura une élection générale, et il n'est pas certain du tout que ni à gauche ni à droite, on revienne sur un Brexit. Tout dépendra de sa forme. Mais moi, je suis plutôt optimiste. Il y aura un accord, car aucune des deux parties ne peut se permettre, que soit l'Union européenne ou le Royaume-Uni, qu'il n'y en ait pas.
Marc Roche, dans le Royaume-Uni que vous nous décrivez, que vous nous promettez, si je puis dire, post-Brexit, alors on l'a entendu effectivement, et c'est ce qu'on voit quand on vous lit, les premiers temps risquent d'être compliqués. À court terme, c'est difficile. À long terme, vous y voyez beaucoup plus d'optimisme, mais tout en disant qu'il y aura effectivement plus d'inégalités, puisque les investisseurs seront favorisés, en gros, les impôts au plus bas, ça veut dire aussi un pays offshore. Mais à quel prix, au fond ? Qu'est-ce qu'elle y gagne, la classe moyenne britannique, de la manière dont vous décrivez aujourd'hui le Brexit ? Au fond, est-ce que ceux qui ont voté pour ne vont pas être les dindons de la farce tout de suite, en fait ?
Il est très clair que ceux qui ont voté en faveur du Brexit, c'est généralement les classes populaires et la petite classe moyenne dans le Nord ou au Pays de Galles, enfin dans des régions ne connaissent pas un grand essor économique, risquent d'être les grands perdants, alors que dans le Sud et à Londres, qui est fécondé par les services et les services financiers, les universités, la recherche, principalement le soft power, la culture, eh bien le Brexit, vous savez, sera facilement absorbé. Il y a quand même un espoir pour les gens du Nord, à savoir que les investisseurs étrangers dans l'industrie, qui est surtout dans le Nord, ils ne vont pas quitter le Royaume-Uni parce qu'ils resteront attirés par une fiscalité basse, par l'absence de patriotisme économique. Le Royaume-Uni est le seul qui a vendu une partie de son industrie nucléaire à des étrangers, en l'occurrence des Chinois, et aussi par le fait que le Royaume-Uni, hors de l'Union européenne, mais restant en Europe, va aussi signer des accords commerciaux avec d'autres pays comme le Canada, les pays du Commonwealth.
Mais qu'est-ce que ça veut dire socialement pour ce pays, le Royaume-Uni ? Est-ce qu'on risque pas de voir des manifestations de la part de ces gens-là, à qui on n'avait pas vendu ce type-là de Brexit ? Vous le dites très bien dans votre livre, le populisme a été étouffé en même temps que le UKIP est parti au fond et a été étouffé par le Brexit. Mais est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir, on va pas faire des comparaisons qui n'en sont pas, mais des manifestations un peu du modèle des mineurs sous tête chère ou des choses comme ça, quelque chose de socialement très fort, quand ces gens-là se rendront compte que le Brexit, c'est pas pour eux.
Écoutez, les Britanniques sont darwiniens, je le dis dans mon livre et je l'explique, et ils l'ont toujours été, ils ont toujours accepté la loi du plus fort, ils ont toujours accepté les inégalités, si ce n'est entre une petite période de leur histoire, entre 1945 et 1979, quand Thatcher est venu au pouvoir. Thatcher a été élu à 3 reprises, Tony Blair n'a rien changé à cela, et ses successeurs non plus. Donc, en gros, l'acceptation des inégalités qui fait que aujourd'hui les poubelles dans mon quartier à Londres ne sont ramassées que 2 fois par semaine et dans les quartiers excentrés 2 ou toutes les 2 ou toutes les 3 semaines, que l'État-providence est vraiment ramené aux aquets, que le service national de santé est rationné, mais cela, ils le vivent. Alors, avec le Brexit, ça va pas être pire, ça va simplement être plus inégalitaire, mais comme ils acceptent les inégalités, vous savez, il n'y a pas eu de manifestation au Royaume-Uni comme ce fut le cas en France, contre Juppé ou toute réforme.
Une toute dernière chose, Marc Roche, le Royaume-Uni, là, il y a quelques minutes, ne demande pas de prolongation de la période de transition post-Brexit, en fait. C'est ce que dit Theresa May, il n'en est pas question. On a dit que c'était 2020, ce sera 2020, on n'attendra pas 2021. Ça veut dire quoi, quand elle envoie ce message-là?
Écoutez, ça veut dire très clairement que Theresa May est persuadée qu'elle peut emporter le vote du Brexit d'un accord final et même d'un accord qui soit mi-figue, mi-raisin au Parlement, parce qu'elle a des atouts en main, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de challenger au sein de son propre parti qui puisse la remplacer, que son propre parti redoute avant tout des élections générales dont le Labour pourrait être le grand vainqueur, et donc qu'elle-même, on lui reconnaît quand même une grande détermination. Moi, j'aime beaucoup Theresa May. Je trouve qu'elle a bien mené les négociations dans une situation impossible, elle-même étant victime du... Elle a le diabète et néanmoins, elle a montré la détermination à un moment très difficile, et les Britanniques lui en seront gré.
Merci beaucoup Marc Roche, merci à David Young aussi, tout ça on le suit avec beaucoup d'attention et beaucoup de passion aussi évidemment de notre côté de l'Europe à nous. Merci encore.
France Inter, Fabienne Saint-Ès. Un jour dans le monde.
La suite d'un jour dans le monde, ça se passe à Kiev, au milieu de cette église orthodoxe ukrainienne qui vient d'être déclarée indépendante de Moscou, mais c'est pas comme si c'était simple. Sous les radars, et Amélie Perry avec un macro, pas un poisson, hein, un mac, un proxénète, un marlou, mort aux États-Unis, mais qui pourrait quand même se faire élire, figurez-vous, aux élections à mi-mandat. Le cinéma en VO, Eva Béton, bonsoir.
Bonsoir.
Incroyable documentaire sur Mandela, Eva.
Oui, alors l'histoire a retenu Nelson Mandela. Il y avait 8 co-accusés avec lui dans le box des accusés au cours de ce procès où il a été condamné à la prison à vie.
Et à tout à l'heure, Eva. Le monde à l'envers. Bonsoir Jean-Marc
Four. Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
On ne va pas le lâcher, MBS, Mohamed Ben Salman, mais peut-être qu'il sera lâché de son côté.
C'est possible. Il paraît qu'on va se fâcher avec l'Arabie Saoudite à cause de l'affaire Khashoggi. Sérieusement, vous y croyez, vous? Pas moi.
Eh bien, on verra ça à 18h55. Le tour de la planète continue. Ne bougez pas, on vous emmène. Inutile de garder les mains sur le volant. Voici Curtis Mayfield sur France Inter. Move on up. Just move on up toward your destination. Though you may find from time to time complication. Comme dans les Monty Python, mais non, rien à voir. C'est juste que j'étais en train de parler un petit peu, Curtis Mayfield, sur France Inter.
France Inter.
Good evening and welcome.
Erasmachio Capillon.
Un jour dans le monde.
Intervencia extra.
Alors pourtant, on nous l'apprend dans les écoles, hein. Dès qu'il y a la lumière rouge, il ne faut pas parler. Amélie Perrier.
Règle de base.
Et sous les radars, un peu de base, ouais. Une illustration parfaite des contradictions de l'Amérique. Voici Denis Hoff, qui vient de mourir.
Oui, Denis Hoff, c'est un personnage très connu aux États-Unis. C'est en fait le Mac le plus connu du pays. Il possédait 7 maisons closes au Nevada, où c'est légal. Il avait son émission de télé-réalité sur la chaîne HBO, où l'on suivait ses employés, des prostituées, donc dans ses hôtels de passe. Et dernièrement, il s'était aussi lancé en politique. Et le plus incroyable, c'est que même mort, il pourrait être élu à titre posthume lors des élections, les midterms du 6 novembre, dans ce comté rural très conservateur où il partait très favori sous la bannière républicaine face à la candidate démocrate. En fait, le code électoral du Nevada prévoit, tenez-vous bien, que si un candidat meurt après 17 heures le 4e vendredi de juillet de l'année du scrutin, les bulletins exprimés en faveur du défunt doivent être pris en compte. Donc Denis Hoff, candidat mort, pourrait être élu.
La personne qui a pensé à ça quand même.
Mais je pense qu'elle est morte depuis.
Ah bah aussi. Eh
bien, il pourrait être élu avec notamment, tenez-vous bien, les voix des évangélistes qui ont apporté leur soutien aux propriétaires de maisons closes. Il s'en expliquait l'an dernier assis à côté d'une prostituée, Azalee Love, qui travaille pour lui. Là, il dit, les religieux votent pour moi parce qu'ils en ont marre qu'on leur mande, que les politiques se fassent passer pour des chrétiens. Ils mettent de côté le fait que je possède des maisons closes parce que c'est légal dans le Nevada. Ça fait partie de la culture du Nevada depuis 150 ans. Alors, ces détracteurs le taxent d'opportunisme parce que si aujourd'hui il concourt, même mort, pour le parti de Donald Trump, son modèle, disait-il, il avait soutenu en 2016 à la présidentielle Hillary Clinton avec ce cri de aliment, les prostituées pour Hillary. That's all, folks, comme on dit là-bas.
Allez, une autre polémique, une autre polémique aussi très populaire dans son pays. Nous partons pour l'Arménie.
Et vous le connaissez, c'est Nicole Pachinian, Premier ministre. C'est lui qui était venu prononcer l'éloge funèbre d'Aznavour aux Invalides avec Emmanuel Macron. Il s'adressait au chanteur décédé, mais surtout, on le comprend d'autant plus aujourd'hui à son peuple.
Je tiens à affirmer que je suis voué sans réserve à cette œuvre pour que la nouvelle Arménie devienne telle qu'on l'avait rêvée. Une Arménie libre et heureuse, ce sera la réponse à ce travail que vous avez effectué pour le peuple arménien.
Le Premier ministre a annoncé hier soir sa démission à la télé. Les Arméniens s'y attendaient. Le but est de convoquer en fait de nouvelles élections législatives anticipées avant la fin de l'année. La stratégie de Nicole Pachinian, c'est de réformer en profondeur le pays, de mettre fin à la mainmise d'une élite politique, de lutter contre la corruption. Et s'il démissionne aujourd'hui, c'est pour reprendre donc son poste de chef du gouvernement, mais cette fois avec un parlement de son côté. Car quand il est arrivé au pouvoir en mai dernier, c'était après de grandes manifestations anti-gouvernementales. Mais là, aujourd'hui, il ne contrôle pas le Parlement, encore largement acquis au parti de l'ancien président. En tout cas, l'homme soulève les foules dans ce petit état du Caucase. Les Arméniens avaient bloqué la capitale Erevan en mai dernier, ce sont les manifestations qu'on entend ici. Par dizaines de milliers, ils étaient dans la rue. On verra si ça sera suffisant pour venir à bout des forces politiques traditionnelles qui ont l'intention de freiner au maximum le processus vers de nouvelles élections.
Amélie, belle moralité. On a commencé par un Macron, on va finir avec un dealer.
Mais
donc,
l'un des narcotrafiquants les plus recherchés d'Espagne. Alors ce dealer, il s'appelle Francisco Terron. Il dirigeait le clan des Castañas. Il a été arrêté aujourd'hui dans la province de Cadiz, près de Gibraltar, la zone frontalière avec le Maroc où transitent beaucoup de drogues. La police considère qu'il est à la tête du principal réseau de trafic de hashish d'Andalousie avec son frère Antonio, arrêté en juin dernier. Isco, c'est son surnom, hein. Il était en cavale depuis 2 ans. Et si je vous passe ce morceau de reggaeton,
oui,
vous demandez pourquoi?
Mais je me demande.
Parce que le narcotrafiquant apparaît dans le clip, en fait, aux côtés du chanteur classe A. On les voit descendre tous les deux d'une énorme Bentley, plus loin dans une chambre avec beaucoup de filles en string, on y revient,
voilà.
Et beaucoup de champagne. Le chanteur avait fini par retirer le clip de YouTube, mais cela montrait bien le mépris du voyou en cavale pour les forces de l'ordre. Et puis cette confiance a peut-être eu raison d'Isco aujourd'hui, derrière les barreaux. Ça va, la morale est sauve?
Ouais, le crime ne paie pas. Ouais, madame, merci beaucoup. À demain, Amélie.
À demain.
France Inter.
Doha, Harare,
Jérusalem,
Mecca. Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo.
Beyrouth, France Inter.
C'est en Ukraine que nous emmène l'escale reportage ce soir. L'Ukraine et son église orthodoxe qui officiellement, par la volonté du patriarche de Constantinople, est devenue indépendante. Elle était rattachée à Moscou depuis 332 ans, au patriarcat de Moscou et ses 150 millions de fidèles. L'histoire commence là. Mais ça se complique, écoutez bien, l'église orthodoxe russe, très proche de Poutine, elle a rompu ses liens avec Constantinople. Bonsoir Claude Brouillot.
Bonsoir Fabienne.
Et en Russie, en Ukraine pardon, donc où vous nous emmenez, la situation est très tendue. La seconde église orthodoxe ukrainienne, autorisée donc à devenir indépendante, soutenue par le président Porochenko, fait tout pour prendre la place de l'église orthodoxe originelle, jugée trop proche de Moscou. En jeu, c'est quoi? Eh bien, 12 000 paroisses, 300 monastères, dont le plus célèbre de tous, le Saint-Laure de Kiev, et c'est là que vous êtes.
Depuis toujours, dimanche est un jour de ferveur sur les hauteurs de Kiev. En surplomb du fleuve Dniepr rayonne la Sainte-Laure de Kievo-Percherk, ensemble monastique abritant des grottes millénaires, un des berceaux historiques de l'orthodoxie des Slaves de l'Est. Au milieu des pèlerins, Kostia, notre guide ukrainien, nous présente les lieux.
On est à l'entrée des grottes. C'est après que sur ces grottes, on a construit la Sainte-Laure de Kiev.
Donc là, on va descendre dans les grottes d'origine.
Oui, d'accord.
On suit alors un dédale de couloirs très étroits à la lueur d'une bougie. Il faut 10 bonnes minutes de descente pour rejoindre enfin de petites cavités entourées par les cercueils des premiers patriarches devant lesquels s'inclinent les pèlerins en priant et en chantant.
Quelle différence il y a entre la liturgie telle qu'elle est pratiquée là en ce moment et dans l'église aujourd'hui indépendante, orthodoxe, ukrainienne.
La langue dans laquelle la messe est menée. Ça, c'est la plus grande importance.
Alors la langue ici qui est pratiquée, c'est quoi hein?
Ici, dans cette église, c'est le russe. Donc toutes les messes sont en russe. J'ai fait exprès à parler aux gens en russe pour ne pas les affoler. Ils auront un peu plus confiance.
De retour à l'extérieur, c'est également en russe que s'exprime l'archimandrite, pourtant ukrainien, Kleman Vietcheria, porte-parole officielle de l'église orthodoxe fidèle au patriarcat de Moscou. Il nous montre sur son portable le film d'un groupe de ses fidèles, essentiellement des femmes, agressées par des hommes cagoulés en treillis militaires.
Ne passez pas.
Laissez-nous passer.
Ne provoquez pas.
Laissez-nous passer.
Venez ici.
Mais laissez-nous passer.
Vous ne filmez pas.
Laissez-nous passer.
Ne passez pas. Ne provoquez pas.
Laissez-nous passer. Laissez-nous passer.
В населенный пункт приезжали вот такие люди, как вы видите.
Les gens que vous avez vus sont venus dans de toutes petites villes. Ils ont fait de la provocation. Ils ont forcé les habitants à être contre notre peuple local. Ils les ont menacés, ont insulté ceux qui défendaient leurs principes religieux. Ils sont entrés dans les maisons et ils ont utilisé des gaz lacrymogènes. Ils ont même fait peur aux enfants. C'était épouvantable. En fin de compte, ils ont réussi à créer un conflit religieux là où il n'y avait rien avant. Je suis complètement sûr qu'il y a énormément de forces intérieures et extérieures qui ont un intérêt à déstabiliser la situation dans notre pays.
L'archimandrite Vietcheria ne craint pas d'affirmer alors que la perspective de l'élection présidentielle en mars prochain pousse tout à la fois le pouvoir et les nationalistes dans une sorte de surenchère pour affirmer encore davantage l'indépendance de l'Ukraine vis-à-vis de Moscou. Et justement, les nationalistes étaient environ 10 000 dimanche entre discours de chefs et concerts sur les places et dans les rues de Kiev à crier leur slogan à la gloire de l'Ukraine. Comme d'autres jeunes, Denis, 18 ans, est venu avec son groupe. Il se dit convaincu, dans ce contexte de reconquête identitaire, que l'influence des orthodoxes proches de Moscou va rapidement s'estomper.
Moi, je pense que pour ceux qui sont restés jusqu'ici fidèles au patriarcat de Moscou, ça va se passer naturellement. De toute façon, dans la situation dans laquelle est l'Ukraine aujourd'hui, avec une loi, ça ne marcherait pas. Il y a beaucoup de démocratie en Ukraine et les gens vont partir d'eux-mêmes.
Celui qui combat est un saint, dit l'un des slogans des nationalistes ukrainiens. Une affirmation dans laquelle notre guide Kostia, orthodoxe peu pratiquant, marié, père de famille, ne se reconnaît absolument pas.
En Ukraine, on dit qu'on ne va pas dans une église, mais on va chez un pope. On choisit un pope qu'on est proche spirituellement. Il y a encore 10 ans de ça, personne ne s'inquiétait si c'était une église de l'hiérarchie kievienne ou moscove. Maintenant, c'est devenu une question. C'est toute la situation qui oblige les gens à choisir. Aujourd'hui, en quelque sorte, on m'oblige à choisir. Tu dois choisir ceci, mais pas cela. Ben, j'espère que mes enfants ne verront pas tout ça. Si ça menacerait l'avenir de mes enfants, je partirai.
En écoutant Kostia évoquer son éventuel départ si les choses tournent mal, on se demande alors combien sont-ils comme lui, ceux qui se sentent comme pris au piège d'un choix à l'origine simplement spirituel et devenu en quelque temps dangereusement politique.
Claude Brouillot pour le reportage en Ukraine, merci et à très vite dans Un jour dans le monde.
3, 2, 1, moteur. France Inter.
Movies are made of light.
Le 18-20.
Appelons ensemble votre jury.
And the winner is...
Un jour dans le monde.
Action!
Le cinéma en VO, comme tous les mercredis, avec Eva Béton. Eva, et un documentaire exceptionnel.
Oui,
en fait. Presque
vraiment.
Extraordinaire, vous dites même.
Oui, parce que c'est quelque chose qui, au sens propre du terme, sort de l'ordinaire. C'est ça ce que je veux dire par extraordinaire. C'est-à-dire que c'est un documentaire sur le procès qui avait été fait à Nelson Mandela. N'oubliez pas la suite du titre du film. C'est le procès contre Nelson Mandela et les autres, de Nicolas Champeau et Gilles Porte. C'est le procès qui a eu lieu en 1963-64. Nelson Mandela, à l'issue de ce procès, sera condamné à la prison à vie. Il n'existait pas d'image de ce procès, mais il existait un enregistrement de l'intégralité du procès et qui a été restauré. C'est à partir de ça que le film
donc,
a
audio,
été fait.
Audio, on est d'accord.
Au départ, il y a que l'audio, il n'y a pas d'image. Mmh. Donc de 256 heures de son, il y a 1h43 de film. Et là où c'est très intéressant, c'est qu'ils n'ont pas choisi une reconstitution. Ils ont tout fait pour que nous entendions ce qui se dit là. Donc il y a des images qui vont à des images d'époque qui nous rappellent ce qu'était l'apartheid. Il y a des images d'animation. Et il y a des survivants, les co-détenus qui vivent encore, qu'ils sont allés rencontrer. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons plusieurs choses. Nous voyons qu'ils sont 9 accusés. Ils sont de toutes les couleurs. Il y a des Noirs, bien sûr, mais il y a aussi un Indien. Il y a aussi un Juif blanc. Nous voyons des politiques. Ils savent qu'ils risquent leur tête, la condamnation à mort. Nous voyons ce qu'est un engagement fort. Et nous voyons un collectif. Ce n'est pas juste des co-accusés qui sont dans le box. C'est tout un groupe. Et c'est dans leur raisonnement politique, ils sont un groupe. Par exemple, ils ont choisi de mettre en avant Mandela. Vous allez écouter le réalisateur Nicolas Champeau. Mais par exemple, le fameux discours fleuve au cours du procès de 3h30 de Mandela, il a été coécrit en quelque sorte avec les accusés. Écoutez Nicolas Champeau, le réalisateur.
Les camarades de lutte de Nelson Mandela ont compris que le mouvement avait besoin d'un porte-drapeau. Et Mandela s'est imposé déjà parce qu'il avait déjà le statut de leader. Il avait une formation d'avocat, il était articulé, il s'exprimait très bien. Et donc, ils se sont dit, c'est lui qu'on va mettre en avant, c'est lui qui va rassembler nos idées pour prononcer une espèce de discours de politique générale pendant le procès. Parce qu'il y avait des reporters dans la salle, il y avait des diplomates des Pays-Bas, de France, d'Angleterre, des États-Unis. Et le régime apartheid présentait le mouvement comme un mouvement de terroristes rouges, barbares. Et voilà qu'on a des hommes articulés, réfléchis, qui défilent à la barre et qui font le procès de l'apartheid et qui font aussi la promotion de leur mouvement. Et sans doute, des diplomates ont-ils compris finalement que ces hommes étaient non seulement des héros, mais avaient l'étoffe de futurs dirigeants. Ils l'ont peut-être constaté lors de ce procès.
Qu'est-ce qui se passe pour qu'ils disent « on ne fera pas appel si on est condamné à mort » Parce que ça semble incroyable. C'est normal, ils ne déchoient pas en faisant appel. Qu'est-ce qui se passe ?
Ils se disent, c'est un message que l'on fait parvenir à nos partisans qui sont encore en liberté, c'est-à-dire que la lutte, c'est une lutte qui peut aller jusqu'à la mort. C'est pour les encourager à eux aussi prendre des risques. Et c'est un message fort, parce qu'ils disent que cette cause-là est plus importante que leur vie. Ils ont l'impression, finalement, que c'est un acte de faiblesse de faire appel et d'implorer le pardon. Et eux ne veulent pas demander pardon, parce qu'ils estiment qu'ils n'ont rien commis de grave moralement. Peut-être qu'ils ont violé des lois immorales, mais moralement, ils sont justes. Donc il y a le collectif, la solidarité, l'engagement pour une cause plus importante que leur vie.
Et Eva, les réalisateurs ont retrouvé certains des co-détenus de Mandela.
Oui, et c'est assez extraordinaire dans le film parce qu'ils ont la bonne idée, il y a deux réalisateurs, Nicolas Champeau et Gilles Porche, je ne sais pas si je l'ai dit, de leur mettre un casque sur les oreilles, vous savez, un gros casque à l'ancienne, et ils s'écoutent pendant le procès et ils réagissent. Il y a une sorte de sérénité, de force tranquille qui ressort d'eux et qui renvoie à leur calme pendant leur procès, leur courtoisie, leur contrôle, leur absence de mots haineux, de rancœur. Et ce qui est passionnant, c'est que tout est politique. Même cette absence de rancœur est politique. Ils pensent à l'après, pendant le procès, alors qu'ils risquent leur tête. Écoutez, un des co-détenus rencontré par Philippe Randé, parce que le film avait été présenté au Festival de Cannes, il s'appelle Andrew Mlangeni.
You know, when we were on Robben Island, life imprisonment.
Lorsque nous étions en prison à Robben Island, condamnés à la prison à vie, on a discuté entre nous. Fallait-il ou pas avoir de la rancœur envers les Blancs d'Afrique du Sud ? Qu'est-ce que cette rancœur nous aurait rapporté ? En tant que Noirs, tous nos droits avaient été bafoués. On nous avait privés d'éducation, privés de droits économiques, politiques. Nous n'avions rien. Alors même si demain nous avions le pouvoir, nous n'avions aucune expérience pour diriger un gouvernement. Donc nous avions besoin de travailler avec ces gens, nous avions besoin de travailler avec nos oppresseurs, jusqu'à ce que nous soyons capables de diriger seuls le pays.
Ça, c'est très impressionnant. Cette tête politique qu'ils ont en permanence, c'est une chose très impressionnante.
Et ça a été toute la politique de Nelson Mandela, effectivement, dès lors qu'il est arrivé au pouvoir. Eva Bétan, merci. Ça s'appelle Le procès contre Mandela et les autres, signé Nicolas Champeau, qui a été longtemps le correspondant d'RFI en Afrique du Sud. Absolument. Et Gilles Porte, ça sort exactement aujourd'hui, mercredi. Merci Eva.
Le 18-20, Fabienne Synthès. Sur France Inter.
Le Monde à l'envers et Jean-Marc Four. Jean-Marc, la pression politique augmente autour de l'Arabie Saoudite. Donc, deux semaines après la disparition de Jamal Khashoggi, le journaliste à Istanbul, disparu donc à Istanbul en Turquie. Les Saoudiens, on le rappelle, sont soupçonnés de l'avoir assassiné, tout simplement. Mais pour vous, Jean-Marc, cette pression politique ne doit pas faire illusion. On ne lâchera pas l'Arabie Saoudite et c'est votre Monde à l'envers ce soir.
Qu'est-ce qu'on se dit au premier coup d'œil? On se dit, c'est en train de chauffer pour le matricule du prince héritier Mohamed Ben Salman, dit MBS. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a été dépêché en urgence dans la région. Hier soir, il a rencontré à Riyad le roi Salman, le père de MBS. Ce matin, il était à Istanbul pour un entretien avec le président turc Erdogan. Dans le même temps, plusieurs grandes entreprises viennent d'annuler leur participation au forum Davos du désert prévu mardi prochain à Riyad. Et on lit ici ou là que c'est un tournant dans la relation avec l'Arabie Saoudite, que si le pouvoir saoudien a eu l'impudence de commanditer un assassinat sur un sol étranger, en plus dans des circonstances particulièrement scabreuses, alors il faut taper du poing sur la table. Je vais jouer les rabat-joies. Il n'est pas du tout évident que ça se passe comme ça pour des tas de raisons. Les premières sont géopolitiques. Pour les États-Unis en particulier, l'Arabie Saoudite est un allié incontournable dans la région. D'abord face à l'Iran, Téhéran, c'est l'ennemi numéro un désigné par Donald Trump. Donc l'Arabie, grand rival religieux et politique de l'Iran, est un allié, a fortiori pour espérer constituer une sorte de front arabe contre Téhéran. Ensuite, sur le dossier israélo-palestinien, Trump, on le sait, rêve de faire avaliser un plan de paix à sa sauce. Il en a chargé son gendre, Jared Kushner, qui est donc devenu très copain avec, devinez qui, le prince héritier MBS. entre autres parce qu'il compte là aussi sur l'Arabie Saoudite pour faire avaler ce plan à des Palestiniens désormais marginalisés. Ça, c'est pour la géopolitique.
Et donc maintenant, vous allez me dire qu'il y a aussi des raisons économiques.
Et pas qu'un peu. Avant toute chose, il y a les ventes d'armes. C'est tout simple. L'Arabie Saoudite est le premier acheteur au monde. Avions F-15 américains, hélicoptères Apache, Charles Leclerc, canon César, tout y passe. Les États-Unis ont décroché le cocotier récemment avec un contrat de 110 milliards de dollars auprès de Riyad. C'est gigantesque. Et la France n'est pas en reste. L'Arabie Saoudite est le deuxième marché pour les armes françaises après l'Inde. Au passage, on ferme les yeux sur le fait que ça sert à tuer des civils au Yémen voisin. Exactement. Ensuite, il y a évidemment le pétrole. Alors là, c'est l'inverse. Riyad n'achète pas, mais vend. L'Arabie Saoudite, on le sait, c'est le premier producteur d'or noir avec des réserves pour les 250 années à venir. Et les Occidentaux, même si leur dépendance au pétrole diminue, ont besoin des Saoudiens pour stabiliser les cours. Ils sont les seuls capables de le faire, surtout au moment où l'Iran, qui est notre gros producteur, est confronté, on le sait, aux sanctions américaines. Enfin, il y a les nouveaux marchés saoudiens, ceux que le prince MBS, justement, est en train d'ouvrir aux entreprises étrangères, l'eau, le tourisme, les transports, etc. Donc ça fait beaucoup d'intérêts économiques dont le poids est beaucoup plus important que la mort d'un journaliste.
Donc vous nous dites qu'on va faire du bruit avec la bouche, mais que pour le reste, ne rien faire concrètement.
C'est possible. D'ailleurs, soit dit en passant, on fait pas tant de bruit que ça. Hein. Donald Trump observe qu'il n'y a pas de preuve de l'assassinat de Khashoggi. Il est peu probable que le président américain verse des larmes de crocodile, disons-le, pour un journaliste qui collaborait pour le Washington Post, qui est un journal détesté par le patron de la Maison-Blanche. La France, elle demande mollement des explications à Riyad, et même le président turc s'est gardé de désigner nommément des responsables. Le plus probable, c'est que les États-Unis ne sanctionnent pas Riyad, mais se servent de cette affaire comme d'un moyen de chantage auprès des Saoudiens, par exemple, pour décrocher des contrats supplémentaires, tout simplement. Il reste une inconnue. C'est la situation politique intérieure en Arabie Saoudite. Le prince MBS, dont plusieurs collaborateurs directs semblent impliqués dans la disparition de Khashoggi, s'est fait beaucoup d'ennemis au sein de l'élite du pays. Même son protecteur de père, le roi Salman, pourrait donc commencer à trouver qu'il pousse le bouchon trop loin. Donc en résumé, il est peu probable que cette affaire nous fasse lâcher l'Arabie Saoudite. En revanche, il n'est pas exclu que le prince MBS soit à un moment donné lâché par son propre père.
Le monde à l'envers. Jean-Marc Four, on va la suivre évidemment cette histoire de très très près. Merci beaucoup Jean-Marc et à demain. On reste ensemble, 18-20 la suite, c'est le journal de Pierre Veil et le téléphone sonne à tout de suite.